On va tourner ensemble dans le psaume 103, le livre des psaumes, chapitre 103, parce que vous savez, on va interrompre les prédications sur le livre de Job pendant l'été. Mais je vais vous faire un aveu, j'ai presque regretté d'avoir pris ce psaume-là. Pas parce qu'il n'est pas beau, au contraire, parce qu'il est tellement riche, tellement bon, tellement beau que j'arrivais pas. Plus je l'étudiais, plus je le méditais, plus je me rendais compte que je n'arriverais pas à faire ressortir tout ce qu'il y a à faire ressortir de ce psaume-là. Donc, vous serez indulgent vers moi si il y a quelque chose que j'ai oublié ou sauté, parce qu'il y a quand même 22 versets. Je vais faire de mon mieux. Merci d'avoir de prier pour moi en même temps. Alors, sans plus tarder, on va le lire, le psaume 103. Qui est tellement un psaume aimé des chrétiens. Je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissez ce psaume. Vous connaissez peut-être un ou deux versets par cœur de ce psaume. Donc, vous allez bien le reconnaître. Donc, on va lire le psaume 103 de David, un psaume de David. « Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui couronne ta bonté de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire à propos de ce psaume-là. Ça prendra 3 ou 4 prédications uniquement sur ce psaume-là. Mais je vais faire mon possible. Alors, M. Campbell Morgan, un prédicateur du 19e siècle, je pense. Hein? En tout cas, il a dit peut-être que ce psaume, c'est l'hymne de louange le plus pur qu'on peut trouver dans toute la Bible. C'est vrai, c'est un psaume qui chante l'amour, la compassion, la miséricorde inlassable de Dieu. Et M. Spurgeon, lui, a dit qu'avec seulement ce psaume-là, on pourrait faire un livre complet d'hymnes, de louanges, hein, pour l'Église. C'est vrai, regardez ce matin, je pense que tous les chants qui étaient là ont été inspirés du psaume 103. Hein, c'est Isaac a fait un bon travail. J'ai reconnu tout de suite la plupart des chants qu'on a chantés, ça commençait par « Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel ». C'est vraiment un psaume qui nous invite à l'adoration, hein. Un psaume qui nous invite à raviver la flamme de notre louange. Hein? Parce que ça arrive des fois qu'on n'est pas, on pourrait dire, en forme pour louer le Seigneur. Hein? La flamme est là, mais elle vacille. On a besoin de mettre des bûches pour raviver cette flamme de reconnaissance et de louange. Et j'ai l'impression ici que David était dans une période ou difficile, qui traversait un passage dur dans sa vie et que peut-être qu'il avait de la difficulté à louer le Seigneur. Et là, il parle à son âme. Hein? Il commande à son âme. « Mon âme, bénis l'Éternel. Hein? » Il ne dit pas « Mon âme, bénis l'Éternel. » « Mon âme, virgule, bénis l'Éternel. » Il ne dit pas que son âme est en train de bénir l'Éternel. Il donne un ordre à son âme. C'est un impératif. C'est comme s'il disait à son âme, « Hey, réveille-toi. Tu as besoin de louer le Seigneur. » Ça va peut-être ça va mal, mais Dieu est bon quand même. Tu as besoin de le louer tellement il est bon. Et puis là, il rappelle des choses à son âme. Hein? Donc ça, c'est la première chose qu'on remarque de particulier à propos de ce psaume. Hein? David ne s'adresse pas au peuple de Dieu. Il ne s'adresse pas à Dieu. Il s'adresse à lui-même. C'est une prédication qu'il fait à lui-même. Une exhortation, qu'on pourrait dire, qui se fait. Hein? Et une autre chose qu'on remarque, c'est qu'il n'y a aucune requête de prière dans ce psaume. Souvent dans les psaumes, le psalmiste s'adresse à Dieu et il demande des choses. Ici, il ne demande rien. Il fait simplement dire à son âme de louer le Seigneur et il rappelle à son âme les bienfaits de Dieu. Ce n'est pas la seule place où le psalmiste parle à son âme. On le voit aussi dans psaume 42, psaume 43, où là, le psalmiste dit, c'est pas David, mais le psalmiste dit, « Pourquoi t'abats-tu, mon âme? Hein? Et gémis-tu? Réveille-toi, mon âme, au psaume 57. Hein? » Et psaume 146, la même chose, « Mon âme, loue l'Éternel. Hein? » C'est parfois bon de se parler à soi-même. Hein? Ce n'est pas une mauvaise chose. En autant que vous ne parlez pas à voix haute, là. Mais on dit même que c'est un signe de bonne santé mentale. Mais encore là, tout dépend de ce qu'on se dit. Mais des fois, on a besoin de se parler. Hein? On a besoin de se dire des choses. C'est sûr que si vous parlez, vous vous dites, « Hey, tu fais dur, hein? Je pense que le Seigneur doit être déçu de toi. » Ou « t'es pas beau, t'es pas belle, t'es pas aussi intelligente que elle, etc. » Ça, arrêtez ça tout de suite. Ça, c'est pas de bonnes choses à se dire. Ce qu'il faut dire à notre âme, c'est lui rappeler les bienfaits de Dieu. Hein? Lui rappeler qu'on est aimé de Dieu, que Dieu nous chérit, qu'on est ses enfants et qu'on a toutes les raisons de le louer. Hein? Alors, il faut faire plutôt comme David, hein? Et parler à notre âme et lui dire à notre âme, « Hey, réveille-toi, là. Tu as besoin de louer le Seigneur. » Elle commence comme ça. Hein? « Mon âme, bénis le Seigneur. » Qu'est-ce que ça veut dire de bénir le Seigneur? Ça fait drôle de dire « on bénit le Seigneur ». On a plutôt tendance à penser que c'est Dieu qui nous bénit. Hein? Et c'est vrai. C'est, comme ça dit dans Hébreu, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais nous, on peut aussi bénir Dieu, mais pas de la même manière. Bénir Dieu, ça veut dire, c'est tiré d'un verbe qui veut dire s'agenouiller, pour vénérer, pour adorer, pour remercier. Donc, on bénit Dieu en le louant, en le remerciant pour ses bienfaits. On pourrait comparer ça à un père qui achète un cadeau à son enfant. Peut-être son petit garçon, ça fait longtemps qu'il lui demande d'avoir un petit compagnon, un petit chien, hein? Et puis, là, un bon jour, le père se décide, il fait une surprise à son fils, et puis il achète un beau petit chien, un petit chiot, et le petit gars, il ouvre le paquet, puis oh, il est tellement content, hein, il est ému, puis il se jette au cou de son père, puis il dit, « Merci, papa, t'es le meilleur papa du monde. Hein? » Alors, le papa est béni, hein? L'enfant a été béni par le cadeau, mais le père est béni à son tour par la reconnaissance de son enfant. Hein? Donc, c'est comme ça qu'on peut bénir le Seigneur. Hein? « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » David dit ça. « Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Ça, c'est dans le psaume 34. Il dit deux choses qui se complètent. Hein? « Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai le Seigneur. » Comment je vais bénir le Seigneur? En le louant. Hein? Il dit la même chose de deux manières différentes. Hein? « Que tout ce qui est en moi... » bénisse son Saint-Nom. Ensuite, c'est ça qu'il nous dit, hein, au verset 2, que tout ce qui est en moi, c'est ce qu'il dit à son âme plutôt, hein, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Alors, David, ici, il ne veut pas d'une louange superficielle, une louange formelle, du bout des lèvres. Il veut que son âme le loue profondément. Hein. Il veut une louange qui vient du cœur. Hein. Quand on loue le Seigneur, il ne faut pas juste... accorder nos instruments ou accorder nos voix, il faut accorder notre cœur aussi. Il faut que le cœur soit là. Hein? Et c'est ça que David ici, il dit à son âme, hein? Réveille-toi, puis loue le Seigneur, pas juste des lèvres, mais avec ton cœur. Hein? Et dans Ésaïe 29, verset 13, Dieu fait ce reproche à son peuple. Il dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Dieu veut une adoration qui vient du cœur. Il ne veut pas nécessairement des belles paroles éloquentes. Il veut simplement que notre cœur le loue, selon ce qu'on est capable de le louer. Hein? Il nous connaît, on va le voir plus tard, qu'il compatit à nos faiblesses. On n'a peut-être pas des grands mots pour le louer, mais on a un cœur rempli de reconnaissance. Et ça, c'est ça qui fait plaisir au Seigneur. Alors ici, David, il ne dit pas « géant », il ne dit pas son âme « quand tu seras mieux, tu loueras le Seigneur ». Ou il ne dit pas « j'ai envie de louer le Seigneur aujourd'hui ». Il commande à son âme, hein? Il n'aurait pas fait ça si déjà il avait envie de louer le Seigneur. Donc, c'est un peu un signe qu'il traversait une période un peu difficile. Hein? Donc, il dit, « Je veux bénir le Seigneur » dans la version français courant. Ça dit, « Je veux bénir le Seigneur ». Donc, c'est une louange intentionnelle. Hein? La louange, ça ne vient pas toujours naturellement. Surtout quand on vit des épreuves, où on traverse une période difficile, ou que la vie est tout simplement tellement routinière, hein, vous savez, métro, boulot, dodo, il se passe rien de spécial. On oublie de louer le Seigneur. C'est facile de louer le Seigneur quand tout va bien, hein, ça va sur des roulettes, tout va bien. Le ciel est bleu, on a le vent dans les voiles, merci Seigneur, on loue le Seigneur, pas de problème. Mais quand c'est le vent, au lieu de l'avoir dans les voiles, il nous empêche d'avancer, on l'a dans le dos, là, c'est la louange, elle vient moins facilement. Hein? Au lieu de dire merci Seigneur, là, ça devient plutôt, pourquoi tu me fais ça Seigneur? Hein? Pourquoi Seigneur? Hein? C'est dans ce temps-là que notre âme a besoin d'un rappel, hein? D'un rappel à louer le Seigneur, à le remercier. Et comment on fait ça? Ben, au verset 2, qu'on va lire, là, David, il dit, « Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Donc, il faut se rappeler les bienfaits de Dieu. Hein? On a tous une fâcheuse tendance à oublier les bénédictions de Dieu. Hein? Est-ce que ça vous arrive? Moi, ça m'arrive. Hein? Oublier. On prend tellement pour acquis les choses que Dieu a fait dans notre vie, qu'il a fait dans le passé, le fait qu'il nous a pardonné, ça nous semble tellement normal qu'on oublie de louer Dieu pour ses bienfaits. Et Dieu sait qu'on a une tendance à l'oublier. C'est pour ça qu'il a donné à son peuple la fête des tabernacles, hein, pour se rappeler que Israël avait été délivré de l'esclavage en Égypte. Et chaque année, ils devaient fêter la fête des tabernacles. En souvenir, pour ne pas oublier. Et dans Deutéronome, il y a des avertissements que Dieu donne à son peuple. Hein. Il dit, n'oublie, quand tu vas rentrer dans la terre promise, là, puis que tu vas habiter dans des belles maisons, puis que tu vas manger des bons repas, n'oublie pas que c'est moi qui te fais, qui te donne toutes ces choses-là. C'est moi qui t'ai sorti d'Égypte. C'est moi qui t'ai fait traverser la mer Rouge, qui t'a guidé dans le désert, qui a vaincu les rois de Canaan, qui t'a donné ce pays en héritage. Oublie pas que tout ça, tous ces bienfaits, ça vient de moi. Hein? Dieu rappelle à Israël de ne pas oublier parce qu'il sait qu'on est oublieux. Et c'est pour ça que nous, on ne fête pas la fête des tabernacles, mais on a la Sainte Cène. C'est pour ça qu'on prend régulièrement la table du Seigneur, la Sainte Cène. Pourquoi? Parce qu'on oublie, hein? Et Dieu ne veut pas qu'on oublie ce qu'il a fait pour nous. On apprend en mémoire du sacrifice de Jésus. Hein? Donc, on oublie parfois, si on oublie les bienfaits de Dieu, ce n'est pas un oubli intellectuel, hein? Ce n'est pas parce que ça sort de notre tête, mais plutôt de notre cœur. Hein? Comme si je vous demandais là, de faire une liste de tous les bienfaits que vous avez reçus du Seigneur dans votre vie, dans le passé et présentement, vous auriez tous une grande liste à présenter. Je serais obligé de vous arrêter parce que vous seriez en train d'y penser. Donc, il faut réfléchir, il faut s'appliquer à se remémorer les bienfaits du Seigneur. Et si on les oublie, c'est parce qu'on ne se les rappelle pas. Hein? Ces choses-là sont sorties de notre cœur et non pas de notre tête. Hein? Parce que notre problème, c'est que on a tendance à oublier les bonnes choses et à retenir plus facilement et plus longtemps les choses négatives qui nous arrivent. Hein? C'est pour ça qu'on... Pourquoi? Parce qu'on repasse sans cesse dans notre tête les choses négatives qui nous arrivent. Hein? Si quelqu'un vous blesse, vous allez le retenir longtemps, vous allez y penser, ou quelqu'un vous insulte, hein? Qu'est-ce qui arrive? On y pense, ça nous trotte dans la tête. Hein? Vous allez retenir ça plus longtemps que si quelqu'un vous fait un compliment. Hein? Vous allez retenir plus longtemps le 20$ que vous avez perdu que le 20$ que vous avez trouvé. Hein? C'est vrai. On est tous faits de la même manière. On est comme ça. Parce qu'on repasse les choses négatives qui nous sont arrivées. C'est pour ça que des fois, on va dire, ben, arrête d'y penser. Hein? Quelqu'un qui se fait du mauvais sang, on va simplement lui dire, ben, pense-y plus, arrête d'y penser. Et c'est vrai que si on arrête d'y penser, ça sort de notre tête. Hein? Et ça sort de notre cœur. C'est la même chose pour les bienfaits. Si on arrête de penser aux bienfaits de Dieu, oh, ça sort. Hein? On n'y pense plus, ça ne vient plus naturellement. Et c'est pour ça qu'à partir du verset 3, là, David rappelle à son âme différents bienfaits de Dieu. Hein? Regardez au verset 3, il dit, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » On va commencer avec ça. Okay? Donc, la première chose qui est sur sa liste, c'est le pardon des péchés. Ça, c'est le plus important. Si Dieu ne nous avait pas pardonné nos péchés, il n'y aurait plus aucune autre bénédiction. Le pardon des péchés, c'est la porte d'entrée vers les autres bénédictions. C'est la source d'où découlent toutes les bénédictions. C'est celle qui ouvre la voie à toutes les bénédictions. Parce que par le pardon des péchés, on est réconcilié avec Dieu. Ça, c'est la chose la plus merveilleuse. Nos péchés sont pardonnés. On n'est plus des ennemis de Dieu quand on a confessé nos péchés. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. L'apôtre Pierre, quand il parle à Corneille, il dit que tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que c'est par lui que nous recevons le pardon des péchés. Donc, par pure miséricorde, Dieu efface nos péchés, puis il rétablit les liens qu'on avait rompus. Hein? On n'est plus séparés de Dieu. On devient ses enfants chéris quand on se repent, puis on fait confiance au sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Dieu nous reçoit comme ses enfants. Et là, il commence à déverser sur nous toutes sortes de bénédictions. Donc, le pardon des péchés, la plus grande des bénédictions. On pourrait s'arrêter là, puis ce serait déjà merveilleux. Hein? Mais ça continue. Hein? La deuxième chose, c'est que Dieu guérit toutes tes maladies. Là, c'est un petit peu touché, comme on dit. Est-ce que ça veut dire que que Dieu guérit tout le temps, toutes tes maladies? Non, il n'y a aucune promesse dans la Bible que Dieu va guérir toujours, miraculeusement, toutes les maladies. Même l'apôtre Paul a demandé à Dieu de lui enlever une écharde qu'il avait dans la chair, qui était probablement une affection physique, mais Dieu n'a pas accordé la délivrance. Il a dit, ma grâce te suffit. Et il mentionne que c'est Trophime malade, quelque part. Donc, Trophime n'a pas été guéri. Et on sait bien qu'il y a des gens qui sont pleins de foi, qui invoquent Dieu pour la guérison et qui ne sont pas guéris. Mais une chose dont on peut être certain, OK, peut-être ce verset nous parle des maladies de l'âme. C'est possible. Il y a des maladies de l'âme. Je crois que certainement, ce verset-là fait référence à ça en partie. Mais pas complètement. Il y a aussi des maladies physiques que Dieu guérit. Dieu se soucie pas seulement de notre âme, mais se soucie de nos corps. Et il opère des guérisons. Des fois, c'est de façon naturelle. Il y a des gens qui vont dire, « Ben moi, j'avais tel malaise, telle maladie, j'ai mangé des aliments naturels ou j'ai pris des médicaments et je suis guéri. » Et voilà. Qui a guéri? C'est Dieu. Que ce soit de façon naturelle ou par la prise de médicaments ou par une opération, qui a permis que les médecins aient la compétence, la science, la connaissance pour guérir des patients? C'est Dieu. Toute guérison, finalement, ça vient de Dieu. Que ce soit de façon naturelle ou miraculeusement surnaturelle, c'est toujours Dieu qui guérit. Et enfin, en passant au verset 4, il dit « qui délivre ta vie de la fosse ». C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alors, Dieu délivre de la fosse. Le péché nous destine à la fosse. La fosse est probablement ici une image de la mort. Ça peut être une image aussi des choses pénibles qui nous arrivent dans la vie. On est comme dans une fosse, on tombe dans une fosse. Un problème, peut-être une dépression, n'importe quoi. On passe un mauvais quart d'heure. On a l'impression d'être tombé dans une fosse. Et Dieu nous délivre de la fosse. Ça peut faire aussi allusion à la délivrance d'une mort prématurée. Probablement pour David, c'était le cas. Mais pour d'ailleurs, dans le psaume 40, verset 2, David a été secouru de la mort par Dieu. Il était sorti de la fosse. Il dit, « Il m'a retiré de la fosse de destruction, puis il a mis mes pieds sur le roc solide. » Mais je pense que la compréhension finale qu'on doit avoir de ce verset de la fosse de destruction, c'est la mort. La fosse de destruction, ça représente la mort, puis la délivrance, elle vient par Jésus-Christ à cause de la résurrection. Jésus a pris nos péchés sur la croix, il est mort, mais il a vaincu la mort. Il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité, et on est ressuscité avec lui, et un jour, spirituellement, mais un jour, on va ressusciter physiquement. On va avoir des nouveaux corps. Et là, il n'y en aura plus de maladie. Et là, c'est sûr. Là, ça va être la guérison complète. Donc, c'est la délivrance de la conséquence du péché qui est la mort. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt, il continue à vivre. Son âme continue à vivre et il va ressusciter un jour. » Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, la mort n'aura pas le dernier mot. Ensuite, une quatrième chose que David mentionne au verset 4, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Bien, la couronne, ça parle de la valeur que Dieu nous accorde, qu'on a à ses yeux. Être couronné par Dieu, c'est plus qu'être pardonné, c'est plus qu'être guéri. C'est comme être élevé à une position d'honneur, malgré notre indignité. Dieu, c'est comme s'il nous mettait une couronne sur la tête. Le verbe qui est utilisé ici pour couronne, c'est aussi couronner. Ça a aussi l'idée d'encercler, d'entourer, de conférer de l'honneur à quelqu'un. Donc, être couronné de bonté et de miséricorde, ça signifie être entouré de la faveur de Dieu. Comme ça dit dans les psaumes, hein, le juste est entouré de sa grâce, hein, ou le juste est couronné de sa grâce, ce serait la même chose. Hein. Donc, on n'a plus besoin de marcher dans la honte, la tête basse. Dieu nous a pardonné, il nous a sortis de la fosse et il nous a couronnés. Hein. Il a mis une couronne sur notre tête. Donc, on n'est plus marqué au fer rouge, comme on l'était avant de connaître le Seigneur. On est couronné. Hein? On a une couronne sur la tête. On n'est plus des esclaves. On est des enfants de Dieu. On a été libérés, lavés de nos péchés, couronnés. Alors, quand vous vous levez le matin, pensez à ça. Je suis couronné de bonté et de miséricorde. Hein? Wow! Et là, on peut marcher la tête haute, sans honte. On sait qu'on est purifié, lavé de nos péchés. Hein? Cinquième chose, verset 5, là, ça dit, « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Encore là, il y a j'ai fait des recherches. C'est étrange parce que dans la Bible, en anglais, ça ne parle pas de vieillesse. Hein? Ça ne dit pas « c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse ». Ça dit plutôt quelque chose comme « c'est lui qui rassasie ta bouche de bien-être, de bien hein? ». Ou « c'est lui qui satisfait tes désirs ». Ça peut... c'est assez compliqué de traduire ça. Moi, je ne connais rien dans l'hébreu, mais d'après mes recherches, il y en a qui pensent que ça veut dire, ça n'a pas rapport avec la vieillesse, mais comme ça dit dans la traduction, je pense que le français courant, ça dit qu'il ta vieillesse, qui rassasie ta bouche de bien. Qui rassasie ta bouche de bien. Hein? Ou, j'ai une autre tradition, qui remplit ta vie de bonheur. Donc, vous comprenez l'idée? Alors, si vous optez pour la vieillesse, c'est bon. Dieu va vous rassasier de bonheur, de bien-être dans votre vieillesse. Mais si on opte pour la traduction qui rassasie ta vie de bien-être, alors ça comprend la vieillesse aussi. Autrement dit, Dieu nous rassasie du début à la fin. Hein? On est rassasié. Peut-être pas de la même manière dans la vieillesse que dans notre jeunesse, mais on est rassasié. Hein? Dieu ne ménage pas ses bienfaits. Il est généreux. Il n'est pas chiche. Hein? Il est généreux de ses bienfaits. Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite par sa grâce. Hein? On mérite d'être rejeté loin de lui. Hein? On mérite le châtiment éternel. Mais Dieu ne nous donne pas ça. Il ne nous donne pas ce qu'on mérite. Et non seulement ça, il nous donne ce qu'on ne mérite pas. Hein? Dans sa miséricorde, il nous donne ce qu'on ne mérite pas. Il nous rassasie de bonheur. Il nous rassasie de bienfaits. Hein? Donc, rassasier, ça veut dire on a amplement. Hein? On a beaucoup. Hein? Pensez à, par exemple, la multiplication des pains. Quand Jésus a nourri la foule, il en restait. Hein? Il y avait 5 paniers pleins, des fois, hein? de pain et de poisson. Il n'a pas juste rationné là, les gens. Hein? Il les a rassasiés. Et les bénédictions de Dieu, c'est comme ça. On n'est pas rationné, on est rassasié. Hein? Ensuite, il parle de l'aigle qui nous rajeunit comme l'aigle. Alors, l'aigle a une réputation de vivre longtemps. Et certains pensent qu'à la fin de sa vie, les plumes de l'aigle tombent et ils poussent de nouvelles plumes, et ses ailes en tout cas, et puis on a l'impression que l'aigle est plus jeune. En tout cas, on croyait ça dans l'Antiquité, je ne sais pas si c'est exact au point de vue scientifique, peut-être que non, mais l'idée c'est que Dieu nous rajeunit, nous renouvelle. Il renouvelle nos forces. Hein. Il nous rassasie chaque matin de sa bonté et nous serons pour toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Alors ça chaque matin, il y a comme un renouvellement des bontés de Dieu. Hein? Dans Lamentations, chapitre 3, 22 et 23, je crois, Jérémie, il dit, les bontés, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ça ressemble à David, hein? Parce que Jérémie traversait une période très, très, très difficile. Hein? Et puis, là, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Il voyait des choses terribles qui se passaient en Israël, mais il dit, c'est pas ça que je veux regarder, là. Je veux repasser quelque chose dans mon cœur. Et là, il se dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ça fait penser aussi ce passage à Ésaïe 40, verset 3, où c'est dit, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lancent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Dans 2 Corinthiens 4, verset 16, ça dit, « C'est pourquoi nous ne perdons point courage. Même si notre homme extérieur se détruit, notre vie intérieure, notre homme intérieur, plutôt, se renouvelle de jour en jour. » Encore le renouvellement. Dieu nous renouvelle constamment. Et voilà. Ensuite, là, David, on l'a vu, vient d'énumérer des bienfaits personnels. Là, maintenant, il va penser à des bienfaits qui s'adressent un peu au peuple de Dieu, hein? À l'ensemble du peuple de Dieu. Et au verset 6, il dit, « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. » Donc, c'est un autre bienfait de Dieu. Il exerce la justice dans le monde. Il intervient en faveur des opprimés. Dieu voit les injustices. Hein? Il voit les injustices du monde. Et il entend la prière des gens qui sont opprimés, qui crient à lui. Dans le psaume 9, verset 10, c'est dit, « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. » Et au verset 13, « Car il venge le sang et se souvient des malheureux et n'oublie pas leurs cris. » Dans le psaume 35, verset 23, le psalmiste dit, « Réveille-toi pour me faire justice. » Il crie à Dieu. Dieu entend nos cris lorsqu'on est opprimé ou lorsqu'on subit une injustice. Psaume 37, verset 10, « Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. » Un peu de temps. Parce que Dieu, souvenez-vous, il est miséricordieux, il est compatissant. Hein? C'est un juge, il juge, il est juste, il châtie, mais il est miséricordieux et il accorde du temps. On va le voir là, il est lent à la colère. Hein? Il n'y a pas la mèche courte, comme on dit. Hein? Il ne punit pas immédiatement lorsque une injustice est commise. Il laisse le temps aux gens de se repentir parce qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Donc, si on subit une injustice, on peut crier à Dieu, on peut prier et faire confiance à Dieu qui va nous faire justice, mais ça ne va pas nécessairement se faire immédiatement. Et peut-être que ça ne se fera même pas dans ce monde-ci, mais on peut faire confiance que Dieu est un Dieu juste et qu'il compatit à notre souffrance. Il sait c'est quoi subir une injustice. Jésus a vécu les pires injustices. Il a été accusé faussement, hein, cloué à une croix par c'est ceux qui l'ont créé. Hein. Alors, il sait c'est quoi d'être opprimé. Et dans la deuxième épître de Pierre, ça dit, « Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Encore une fois, comme pour la guérison complète va venir à la résurrection. Et la justice complète va venir aussi à la résurrection, sur la nouvelle terre, hein, avec nos nouveaux corps qui ne périront jamais, qui ne souffriront plus, hein. Ni dans notre âme, ni dans notre corps, on va souffrir. Hein? Voilà. Alors, on va continuer avec le verset 7. Dieu ne reste pas caché. Hein? Verset 7, ça dit, « Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. » Donc, Dieu ne reste pas caché, il se manifeste. On a un Dieu qui se révèle. Hein? Il s'est révélé par des actes à Moïse. Et à Moïse, il a révélé son nom, il a révélé son caractère. On peut lire ça dans Exode chapitre 34, verset 6. Là, on voit Dieu qui passe devant Moïse, qui était caché dans le rocher pour révéler sa gloire, révéler son nom. Dieu met sa main et il passe en déclarant son nom. Hein? Et il dit exactement ce que David dit ici, hein? Au verset 8. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Et ça continue dans Exode, mais ça, c'est la première partie de ce que Dieu déclare en passant devant Moïse. Et ça, c'est un verset qu'on retrouve partout, dans les psaumes, partout dans la Bible. C'est un des versets où de déclaration de Dieu, révélation que Dieu a donnée de lui-même, de son caractère, qu'on retrouve le plus souvent dans la parole de Dieu. Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Hein? Et Dieu, c'est comme ça qu'il se révèle. Quand on lit des livres de théologie ou de catéchisme, à la question « Qui est Dieu? » On répond, ben, Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent. Hein? Toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là sont vraies. Mais quand Dieu révèle son nom, c'est-à-dire son caractère, parce que vous savez que pour les Hébreux, le nom, ça signifie qui on est vraiment. Hein? Et Dieu a voulu révéler qui il est profondément. Et il n'a pas commencé par dire « je suis tout-puissant, je suis omniprésent », tout ça. Non. Le plus important pour Dieu de révéler, c'était qu'il était plein de miséricorde, de bonté, lent à la colère, hein? Plein de compassion. C'est ça que Dieu veut qu'on sache à son sujet. C'est comme ça que Dieu veut se révéler. Il a révélé non seulement son nom, mais il s'est révélé aussi par ses actes, comme on le dit tout à l'heure, hein, Dieu a délivré Israël, il l'a guidé dans le désert, il l'a fait entrer dans la terre promise. Donc, il a manifesté sa puissance, sa bonté. Hein? Et ça, c'est un autre exemple, ici, de la délivrance des opprimés qui ne vient pas tout de suite. Ça a pris des centaines d'années, 400 ans, 450, je crois, pour Israël d'être délivré de l'Égypte. Hein? Mais Dieu a entendu leur cri, et ils ont délivré. Donc, Dieu s'est manifesté par ses actes. Hein? Et il continue à la fin. Donc, on n'adore pas un Dieu caché, mystérieux, comme les dieux de la mythologie grecque ou romaine, hein? Ou de l'ancienne Babylonie. On adore un Dieu qui s'est révélé. Et il s'est révélé avant tout dans sa parole. Et sa révélation finale vient par Jésus-Christ, hein, la parole de Dieu. On va voir ça un petit peu plus loin tout à l'heure. Donc, il se révèle aux êtres humains, il se manifeste. Après ça, les versets 8, 9, 10, jusqu'à 19, là, c'est une description de cet amour. Hein, cet amour qu'il a manifesté depuis la création. Cet amour qu'il a pour ses créatures, hein, depuis toujours. Et le verset 8, pour moi, ça, c'est le verset clé, le verset charnière, hein, qui révèle la raison pour laquelle Dieu nous accorde tant de bienfaits, hein, que David vient de rappeler à son âme. Pourquoi Dieu nous bénit comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il nous trouve gentils, beaux, et qu'on mérite des récompenses? Non, ce n'est pas des récompenses. Dieu n'a rien vu de grande valeur en nous qui méritait, qui déverse ses bienfaits. Hein? C'est par pure grâce. C'est parce que lui est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est ça qui explique l'abondance des bénédictions qu'on retrouve dans notre vie. Hein? C'est la réponse pourquoi Dieu fait-il ce qu'il fait? Pourquoi Dieu se plaît-il à nous bénir? C'est à cause de ce qu'il est. Hein? Et de qui il est. Hein? Pas à cause de ce que nous sommes ou de ce que nous avons fait, mais lui qui il est. Hein? Il est miséricordieux et compatissant. Dieu est compatissant et miséricordieux, ça veut dire qu'il souffre de nous voir captifs dans le péché. Dieu souffre de voir tout le mal qui se fait dans le monde. Comment le péché détruit nos vies, empoisonne nos vies, nos relations. Hein? Dieu n'est pas insensible à ça. Hein? C'est plus que de l'empathie. C'est une piété, une compassion qui le pousse à agir. Hein? Une pitié qui le pousse à faire quelque chose pour soulager la douleur, soulager la souffrance de ses enfants. Hein? Dieu est lent à la colère. Hein? Donc, on le dit tout à l'heure, il n'y a pas la mèche courte. Sa colère est vraie, elle est réelle. Et la Bible en parle plus de 600 fois, mais sa colère arrive après qu'il a démontré beaucoup de patience. Donc, la colère de Dieu, ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas parce qu'il sort de ses gonds, comme nous. Ce n'est pas une colère comme une colère humaine. Hein. C'est une colère qui n'est jamais capricieuse. Et elle est toujours proportionnée. Hein. Elle n'est jamais disproportionnée comme notre colère. Hein? Tu m'as arraché un œil, ben moi je vais t'arracher les deux yeux. Hein? C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, Dieu a dit œil pour œil, dent pour dent, parce qu'il savait notre tendance à se venger hein, en double ou en triple. Hein? Tu as tué mon frère, ben moi je vais tuer toute ta famille, 25 personnes. Let's go. Là, je suis. Hein? C'est comme ça. On est comme ça. Mais Dieu, lui, n'a pas une rage incontrôlée comme nous, comme les dieux de la mythologie. Hein? Sa colère, c'est plus une expression de sa sainteté. Hein? Il est lent à la colère. Il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Et ensuite, au verset 11, 12, 13... David nous donne trois autres descriptions de la bonté de Dieu, de la grandeur de son pardon et de sa compassion. Au verset 11, il compare la distance de la terre. Regardez le verset 11. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Est-ce qu'on peut mesurer la distance entre la terre et les cieux? Non, on ne peut pas mesurer ça. Alors Dieu, c'est comme s'il nous disait sa bonté n'est pas mesurable. C'est encore plus grand que ça. C'est inimaginable. Hein? Souvent, on a une idée de Dieu qui retient hein, ses bontés, qui est bon, mais plus ou moins. Hein? Mais c'est faux. Dieu est extrêmement bon, astronomiquement bon. Hein? Sa miséricorde est grande. Hein? Bon, où est-ce que je suis rendu, là? Ça, je l'ai dit. OK. OK, et ensuite, une autre image de sa, ou description de son amour, de sa compassion, c'est au verset 13. Comme un père a compassion. Oh, juste avant, hein, il dit l'Orient, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ah, ça c'est intéressant aussi. Hein? L'Orient puis l'Occident, ça ne se rencontre jamais. Hein? Fait que nos péchés ne rencontreront jamais un Dieu en colère. Ils sont effacés. Hein? Il ne les voit plus. Il ne va pas nous revenir là-dessus. Hein? Il ne va pas nous revenir sur nos anciens péchés. Si on a confessé nos péchés, Ils sont partis. Ils sont partis à tout jamais. Dieu ne reviendra pas nous en reparler. Hein, c'est fini. Et ensuite, au verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Alors, une autre description de l'amour de Dieu. Alors, il prend l'image d'un père qui a compassion de ses enfants. Hein? Un bon père. Hein? Il y a des pères fouettards, il y a des pères abusifs, Mais un bon père, il prend soin de son enfant. Hein? Il a compassion de son enfant. Il a compassion de sa faiblesse. Il a compassion de son ignorance. Hein? Il a compassion de ses limitations. Si son enfant a de la difficulté à le suivre quand il marche, ben, il va le, puis l'enfant est comme ça, ben, le père va le prendre dans ses bras. Hein? C'est quand un père a de la compassion pour ses enfants, ou une mère aussi, hein? Encore plus. Mais tu es comparé à un père qui connaît les faiblesses de ses enfants et qui ne demande pas à son enfant des choses qu'il ne peut pas faire. Hein? On ne va pas demander à un enfant de 2 ans de lever 50 livres. Hein? Dieu est comme un père qui a compassion. Hein? Même quand il exerce la discipline, il a compassion. Un père qui doit exercer la discipline, il le fait par amour. Ça, il fait quand même de la peine. Tu as dit à son enfant, si tu n'écoutes pas, tu vas être privé de ton émission de télévision ou de sortie. Eh bien, s'il exécute la menace, ce qu'il devrait faire, ça, il fait de la peine quand même. Hein? Il le fait par amour, mais ça fait de la peine au père de voir que son enfant il est privé de sortie. Hein? Mais c'est toujours par amour. Hein? Dieu est comme ça. Hein? Cette pitié a ses racines dans la connaissance qu'il y a de nous. Hein? Ça, on peut lire ça au verset 14. « Car il sait de quoi nous sommes formés, se souvient qu'on est poussière. Hein? L'homme, ses jours, sont comme l'herbe qui fleurit, comme la fleur des champs. Puis le vent passe, elle n'est plus. Le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. » Dieu est au courant de notre faiblesse. Il sait notre nature impermanente, éphémère. Et après ça, David compare notre nature éphémère avec le règne éternel de Dieu, la bonté de Dieu qui dure à toujours. Hein? Et à la fin, à partir du verset 20, là, il invite tous les anges, toutes les armées de Dieu, toute la création, toutes ses œuvres, à le louer. Hein? Dans tous les lieux de sa domination, c'est-à-dire partout, parce que juste avant, il venait de dire que Dieu règne partout. Il n'y a pas un domaine de l'univers où Dieu ne règne pas. Il est roi de tout. Hein? Et donc là, il invite tout le monde à se joindre à lui. Là, il parle à son cœur, mais à la fin, il s'adresse aux anges, et en même temps, on est concerné. C'est comme s'il disait, hey, joignez-vous à moi, là, on va faire monter une symphonie de louange envers Dieu. Voilà. Alors, juste pour terminer, trois remarques. Alors, le Dieu qui est plein d'amour, de miséricorde et de compassion, le Dieu qui pardonne les péchés, qui guérit, qui restaure, qui délivre, qui rachète, ce Dieu-là s'est fait chair. Hein? Il est devenu comme un de nous, dans la personne de Jésus. David, lui, il espérait, il attendait le Messie, mais il ne l'a jamais vu. Hein? Mais nous, on a le privilège de venir après la venue du Messie. Donc, Dieu, comme il est décrit là dans le psaume 103, il s'est manifesté dans la personne de Jésus. Hein? Quand on lit les évangiles, on voit que Jésus est plein de compassion. Hein? Il compatit à la foule qui n'a pas de berger. Il compatit avec la veuve son fils de Naïm, son fils qui est mort. Il va ressusciter son fils parce qu'il a de la compassion. Et il a la compassion pour les aveugles, etc. On voit partout la compassion de Jésus. On voit Jésus qui délivre. On voit Jésus qui guérit. On voit Jésus qui fait exactement les mêmes choses que de Dieu du psaume 103. Moi, ça nous montre que le Père et le Fils, c'est la même chose. Hein? C'est deux personnes, mais ils ont les mêmes attributs, le même cœur. Hein? Des fois, il y a des gens qui pensent que ben, Dieu, le Père, lui, est plus sévère, et le Fils est plus doux, il lui laisse plus de chance. C'est pas comme ça. Les deux sont pareils. Hein? Jésus est l'empreinte du Père. Hein? C'est la manifestation de Dieu. Hein? Il est le reflet de sa gloire. Les deux pensent exactement pareil. Les deux sont pleins de bonté, de miséricorde, hein? Lents à la colère, etc. Et Jésus à cause de son œuvre accomplie à la croix, que le Père... c'est à cause de ça. C'est à cause de son œuvre accomplie à la croix que le Père, maintenant, peut offrir le pardon. Parce que Jésus a accompli le salut, un salut parfait. Son sang a été versé pour nous purifier de tout péché. Nos sangs ont été effacés. Nos péchés ont été effacés, plutôt, par le sang de Jésus. Et Dieu n'y revient plus. Quand on met notre confiance en lui, on reçoit le pardon de nos péchés. On est délivré de la fosse. On est restauré. Et Dieu nous donne une vie abondante. Hein? Il nous rassasie de bien. Hein? Alors, ce Dieu qui nous a sauvés, qui nous aime, qui est miséricordieux, plein de compassion, est-ce qu'il ne mérite pas toute notre louange? Oui. Amen. Hein? Alors, même si on n'en a pas envie, offrons-lui un sacrifice de louange. Hein? Pourquoi on dit un sacrifice de louange? C'est parce que c'est un sacrifice qu'on n'a pas les moyens de donner maintenant. Hein? Parce que ça va mal, on souffre, mais il faut se rappeler que Dieu mérite notre... Comment on l'a chanté tout à l'heure? Hein? Dieu mérite notre louange en tout temps. Rappelons-nous cette semaine de bénir Dieu. Hein? Parlons à notre âme. Disons-lui, hey, réveille-toi. Dieu est grand, Dieu est bon. Il fait des grandes choses pour toi. Essaye de ne pas les oublier. David nous dit, il dit à son âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est une grosse commande, ça. Hein? C'est impossible parce que ses bienfaits sont trop grands. Mais essayons au moins de ne pas les oublier tous. Hein? Rappelons-nous les bienfaits de Dieu. Les grands comme les petits. Hein? Les petites choses que Dieu fait pour nous à chaque jour méritent notre louange. Hein? Le fait de marcher, d'être capable de se servir de nos mains, de manger, le ciel est bleu, toutes sortes de choses. Dieu mérite notre louange. Alors, prions avant de terminer. Seigneur, merci. Merci parce que tu es un Dieu infiniment bon, infiniment miséricordieux, infiniment plein de bonté, Seigneur. Merci parce que ta grâce surpasse toutes choses. Merci parce que tu fais grâce aux pécheurs. Merci parce que tu nous restaures, Seigneur. Tu ne nous laisses pas dans le péché, tu nous transformes. Et tu nous prends dans tes bras, tu nous tends les bras. Seigneur, fais que s'il y a quelqu'un ici ce matin qui a besoin de toi, oh Seigneur, qu'il puisse tendre sa main, saisir ta main qui est déjà tendue, Seigneur. Et aide-nous tous cette semaine à te louer. Pas juste cette semaine, mais à chaque jour, Seigneur. À louer ton grand nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen.